France Musique.
Les folles journées de Beaumarchais. Un horloger, fils d'horloger, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est un énergumène des Lumières. En deux mots, un homme libre. Voltaire l'adorait. Quel homme ! Écrit l'auteur de Candide au jeune d'Alembert. Il réunit tout, la bouffonnerie, le sérieux, la raison, la gaieté, la force, le touchant, tous les genres d'éloquence, et il n'en recherche aucun. Et il confond tous ses adversaires, et il donne des leçons à ses juges. Sa naïveté m'enchante, je lui pardonne ses imprudences et ses pétulances. Sans cesse actif, Pierre-Augustin Caron ne songe qu'à prendre du galon et se moque de la chronologie. Tout à la fois, musicien, courtisan, financier, promoteur immobilier, industriel, espion, armateur, auteur d'œuvres, éditeur de Voltaire, il devient révolutionnaire malgré lui. À 20 ans, il met au point un système d'échappement à hampe pour les montres à gousset. Système empêchant la montre d'avancer à mesure que le ressort se déroule. Le pote, horloger du roi, s'approprie cette invention. Qu'à cela ne tienne, Pierre-Augustin court à l'Académie des sciences, y dépose une boîte avec l'ensemble des pièces de son invention, demande audience au ministre, le comte de Saint-Florentin, rédige dans la nuit un mémoire où il exige une confrontation. Au matin, il le porte à la revue Le Mercure. Il a compris que sa seule chance est d'alerter la presse et de prendre le public à témoin. La polémique enfle. L'Académie des sciences comprend qu'il faut trancher, au plus vite. Le 16 février 1754, on vote à l'unanimité pour condamner le pote. Notons le courage de cette assemblée d'hommes de science qui accable un familier de Versailles. Du jour au lendemain, on ne parle que de cet artisan au talent si rare, à cet âge et au sang si bouillant. Il n'a pas encore 22 ans et il obtient sa première commande du roi. Une montre pour lui, une pour Madame de Pompadour, une pendule pour Madame Victoire. Horloger du roi, le titre est prestigieux et les rémunérations des plus satisfaisantes. Livrer Versailles, c'est bien, mais Beaumarchais veut davantage. Et pour vivre à la cour, il faut être noble. Pour cela, il faut séduire la cour. C'est donc auprès des quatre filles du roi que Beaumarchais entame son jeu de séduction. Par les montres, il ouvre les portes de Versailles. Avec la musique, il s'y installe. La harpe est alors l'instrument dont il joue et qu'il connaît bien pour en avoir amélioré le mécanisme durant sa jeunesse. Depuis une décennie, les femmes de la haute société sont éprises de la harpe. Elles en aiment le son cristallin et l'instrument est en ces temps-là une œuvre d'art. Pierre-Augustin devient alors le maître de musique des filles de Louis XV et se rend indispensable à la cour. Mais un courtisan sans particule est un homme qui rougit de honte. Il lui faut alors se trouver un nom. Une erreur de mariage à 26 ans l'emmène sur des terres en Arpajon, appelées Beaumarchais. « Cela sonne », se répète Caron. « Beau, je suis. Et Marchais, marché, préfigure le commerce, qui est ma compétence. Va pour Caron de Beaumarchais. » Caron se fera oublier avec le temps, mais cela ne suffit pas. Il faut acheter un titre de noblesse. Pierre-Augustin de Beaumarchais est un ambitieux. Il s'offre la noblesse. Seule cette noblesse est digne de respect car elle est due au mérite, synonyme chez lui de capacité financière. L'ancienne, dite la vraie noblesse, est méprisable. « Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus », fait-il dire plus tard à Figaro dans son adresse au comte. C'est pour cette phrase que son mariage de Figaro sera interdit par l'ensemble des cours d'Europe. Pierre-Augustin a 30 ans. L'histoire de France avance. Louis XV n'est plus le bien-aimé de ses débuts. Son inconduite dégoûte. La Pompadour est haïe, qualifiée partout de sangsue. Le manque de volonté du roi est tourné en ridicule et sa seule vraie décision tourne à la catastrophe. La guerre qu'il mène, alliée à l'Autriche et la Russie, contre la Prusse et la Grande-Bretagne, dure 7 ans, de 1756 à 1763. Elle tue ou blesse 170 000 Français et fait perdre au pays la majeure partie de l'empire colonial, dont le Canada. Double mariage, double veuvage, lieutenant général des chasses, administrateur de la Compagnie des Eaux, armateur, notre homme est aussi et enfin, à 43 ans, un auteur. De son voyage en Espagne en 1764, alors âgé de 32 ans, il en rapporte le goût de la musique et des chansons espagnoles. Sans faire grand cas du théâtre espagnol, Beaumarchais en retient et utilise certains aspects. Le goût du mouvement rapide, la gaieté des intermèdes et des scénettes. Le 26 février 1775, après 3 jours de correction apportée à son texte, le rideau de la comédie se lève sur une pièce nouvelle. Le public l'acclame et le succès ne va plus se démentir. Le 14 mars, le barbier de Séville est invité à la cour. Quelques années plus tard, Marie-Antoinette jouera le rôle de Rosine dans son petit théâtre du Trianon. Mais Beaumarchais repart sur les chemins de l'aventure et ne tarde pas à se retrouver aux prises à de nombreuses affaires. Il est même soupçonné d'espionnage au nom du roi, puis missionné en Angleterre pour détruire des mémoires outrageants. Plus exactement, un brûlot dont la cible est Madame du Barry, maîtresse en titre de Louis XV et ancienne prostituée. Les 10 mémoires secrets sont brûlés le 27 avril 1774. Le 10 mai, Louis XV meurt. Quelques mois plus tard, Beaumarchais prend à cœur la Révolution américaine. De retour à Paris, il essaie de convaincre le roi Louis XVI de prendre position. Cela doit rester dans la clandestinité, lui dit-on. Alors il se lance et se convertit en marchand d'armes pour soutenir les insurgés américains. La vie de Beaumarchais est une suite de folles journées. Ainsi, celle du 12 octobre 1781, dans un petit salon de Versailles, Madame Campan lit. Avant d'obtenir le titre de femme de chambre de la reine, c'est comme lectrice des filles de Louis XV qu'elle est embauchée. Mais sa lecture de ce jour est pour Louis XVI et Marie-Antoinette. Elle ne lit pas un livre, mais des feuillets épars qui, ensemble, constituent une pièce de théâtre. Les comédiens français ont eu beau l'accepter d'enthousiasme et le censeur avoir donné son accord, Louis XVI veut se faire une idée par lui-même. Madame Campan lit d'une voix unie. Elle ne joue pas, ne met pas le ton et surtout s'interdit d'exprimer la moindre opinion sur ce qu'elle lit. Se mord les lèvres chaque fois qu'elle pourrait sourire et les occasions sont nombreuses. Marie-Antoinette se délecte. Le roi est gagné par une colère de plus en plus manifeste. Lui, si placide d'ordinaire, explose de colère dès le dernier feuillet posé. C'est détestable, ce ne sera jamais joué. Cet homme déjoue tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. Et d'ajouter, soudain visionnaire, sa représentation ne pourrait être qu'une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite. Nous sommes en 1781. Malgré lui, Beaumarchais se déclare révolutionnaire. Pour tenir en haleine son public, tout en arguant les autorités, l'auteur multiplie les lectures privées. N'étant pas tenu à la même réserve que la femme de chambre, il incarne tous les personnages. Il est le comte, il est chérubin, il est Suzanne, puis sans effort devient comtesse. La rumeur monte, elle déborde les frontières d'une Europe où toutes les élites parlent français. Paris a encore fabriqué un chef-d'œuvre, s'exclame-t-on. Versailles est divisé. Louis XVI ordonne l'arrêt des répétitions. Joseph II lui a aussi fermé tous les théâtres d'Autriche. Pourtant, sa sœur Marie-Antoinette ne jure que par la folle journée. C'est le comte de Vaudreuil qui prie les comédiens français de bien vouloir venir jouer la folle journée en son château, au nord-ouest de la capitale. On transporte les décors, les costumes, les maquilleuses et toute la troupe vers le château de Gennevilliers. Louis XVI est ouvertement défié. Le rideau se lève, sans nouvelles de Versailles. Louis XVI a fini par céder. Le 27 avril 1784, Paris ne parle plus que de la folle journée. On se bat pour des places. À l'entour du théâtre du Luxembourg, la foule piaffe et frétille. Le rideau se lève sur le matin d'un mariage. Pierre Augustin a 52 ans. À Vienne, le jeune Mozart découvre lui aussi la pièce de Beaumarchais. Le début du célèbre monologue de Figaro ne laisse aucun doute sur la révolte qui l'anime et ce parfum de scandale n'est pas sans séduire le compositeur. 2 ans plus tard, il en écrit son opéra La folle journée ou Le mariage de Figaro. À Prague, l'opéra rencontre le succès. Ici, on ne parle que de Figaro. On ne joue, on ne chante, ne siffle que Figaro, confie Mozart enthousiaste. Mais pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable pouvoir dîner. Cet homme pressé n'oublie pas la continuité. Dès 1777, il lance sa dernière et ultime grande bataille. 20 ans pour inventer le droit d'auteur. Car oui, rémunérer un auteur est le seul moyen de lui permettre la liberté. Ma vie n'a été qu'une suite de combats. Telle est la devise de Beaumarchais tirée du Mahomet de Voltaire. Alors au matin de sa mort, le 18 mai 1799, on écrit sur sa tombe la phrase qu'il choisit. Tandem quiesco. Enfin, je me repose.
À réécouter sur francemusique.fr.